On m'a refusé trois fois un rillette cornichon.
Normalement, c'est puissant, ça arrache.
Oui.
Et là, ça se boit très très bien.
Europe 1.
Régalez-vous, hein. J'ai amené de la rillette aussi, hein. Il y a de la rillette.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Oui, il y a de la rillette, mais pas que. Bien le bonjour, les amis. Confinés, mais attablés, voilà le programme, hein, jusqu'à midi et demi. Alors, en cette période, tiens, vous avez peut-être remarqué que le niveau de votre cave baissait. Eh bien, nous allons vous aider à la garnir avec une belle sélection de vignerons. Novembre, c'est le mois des produits tripiers. Nous allons les cuisiner dans un instant, mais juste avant, laissez-moi vous présenter les bons vivants du jour. C'est une nouvelle recrue. Elle trempe sa plume dans le bon vin pour le journal Le Monde. Nature comme les vins qu'elle apprécie, elle a aussi d'autres qualités. C'est Ophélie Neyman. Bonjour Ophélie.
Bonjour.
Soyez la bienvenue à cette table. Je ne vous présente pas le gourmand et épicurien, l'ami de la crème et du beurre. C'est Olivier Pouls qui va accorder ce samedi ses bouteilles aux recettes d'automne. Bonjour Olivier.
Bonjour Laurent, bonjour Ophélie, bienvenue et bonjour tout le monde.
Et on a de quoi faire, hein, vous allez voir. Et Fanny Rasque nous rejoindra dans un instant pour vos questions, chers auditeurs. Et puis nous allons partager un plat du jour familial avec le chanteur bon vivant, Patrick Fiori. Eh bien allons-y, mettons-nous les pieds sous la table, tiens. Alors c'est vrai que même si nous ne pouvons pas nous retrouver en grand comité, la table reste un excellent remède pour traverser cette crise sanitaire. Entre la cuisine à la maison, les repas livrés à domicile et le marché, hein, on a quand même de belles joies pour se faire
un
plaisir à table.
Un antidépresseur indispensable.
Naturel et qui procure de beaux souvenirs. Alors justement, je vous pose la question, quel est votre goût de la semaine ? Pensez-y à la maison ou en voiture ou en écoutant le podcast. Tiens, je commence par vous, Ophélie Neyman. Votre goût de la semaine ?
Moi, j'ai ressorti mes cocottes. J'ai plein de cocottes. J'en ai des petites, des rondes, des longues. Enfin, des cocottes. Ça cocotait à mort chez moi. Et je mettais tout dedans. J'ai mis des rôtis, j'ai fait des one pot spaghettis à côte d'agneau sur les conseils de la femme de Jean-François Piège qui a sorti une petite recette comme ça, très simple. Et je mets tout dedans et après je ferme et je laisse mijoter et ça marche très bien. Je mets les pommes de terre, les rôtis, les trucs, tout ce que je trouve en fait, je le mets dans une cocotte.
C'est l'ustensile unique et ce que j'aime, c'est qu'on l'apporte au milieu de la table en plus, donc ça fait plat de dressage. Donc c'est un deux en un.
Exactement.
Votre goût de la semaine, Olivier ?
Eh bien, c'était un appel finalement à soutenir une filière qui va très très mal en ce moment. C'est la filière de la volaille de Bresse. Depuis que les restaurants sont fermés, depuis qu'ils ne peuvent plus exporter, ils ont énormément de mal à vendre leurs produits. Et il y a un site qui s'appelle le Cocardi, oui, de la maison Miral, qui est une maison qui est très connue pour l'excellence des choix des volailles de Bresse qu'elle propose. C'est un site de vente en ligne sur lequel vous pouvez acheter de la volaille, mais aussi tout plein de produits dérivés, comme des rillettes, des choses comme ça. On a l'image de la volaille de Bresse comme étant un produit inaccessible et uniquement réservé aux fêtes. Ce n'est pas vrai. Vous avez du poulet de Bresse à partir de 15,90 € le kilo, donc ce n'est pas impayable non plus.
Il y a de la pintade aussi.
Il y a de la pintade à 13 € le kilo. Ouais. Voilà, il y a des produits fantastiques et il faut les aider parce que c'est une fierté de notre production française que cette volaille de Bresse et elle est aujourd'hui très menacée.
Soutenons nos producteurs, hein, c'est ce qu'on fait tous les samedis, effectivement, on en parlera encore tout à l'heure dans un instant, même en allant sur le marché. Alors mon goût de la semaine, c'est celui de la courge, et pas n'importe quelle courge, une courge que j'adore retrouver, c'est le potimarron. Je le coupe en quartier, je le mets pareil, un petit peu comme vous, Ophélie, dans un plat unique qui va aller au four. Quelques gousses d'ail, j'avais un sel parfumé au piment d'Espelette que j'ai mis par-dessus tout ça, et un beau boudin noir basque que j'ai taillé en tranches. Boudin noir basque, le potimarron, un petit peu d'oignon nouveau aussi, l'ail, tout le monde au four, 180 degrés, allez, pendant 40 minutes avec un filet d'huile d'olive. Et à la sortie, j'émince la tige de l'oignon nouveau pour apporter un petit peu de verdure. Et ben, c'était délicieux, ça.
Et ça compote.
Non, ça reste assez ferme. Non, mais il est fondant. C'est vrai qu'il est fondant, le potimarron, mais on le reconnaît. Hein, il n'a pas perdu de sa superbe, quand même. Allez, hop, en route pour le marché, les amis. Direction le Vieux-Lille, place du concert. C'est Lionel Gougelot que vous connaissez, hein, notre correspondant dans la région, qui vous a demandé comment vous organisiez pour faire vos courses depuis le reconfinement. Vos réponses au micro.
On commence à avoir les poireaux, les choux, les chicons.
Chicons, la mâche.
Je cuisine beaucoup. Là, pendant le confinement, c'est quelque chose qui me tient à cœur quand même, de bien manger. C'est pour ça aussi que je viens dans le marché, pour avoir des produits frais. Mais en même temps, il faut soutenir nos commerçants qui sont aujourd'hui dans une situation très délicate.
Quand on vient au marché, on s'adapte aux produits locaux. Il y a des carottes, il y a des côtes de bête.
Les potirons pour faire de la
choupe. Hein.
Ouais. Oui. On reprend les bonnes habitudes du premier confinement. On essaye du plus possible de faire du local, mais là encore plus, parce qu'on sait que les producteurs, c'est compliqué pour eux. Mais on essaye aussi de soutenir les restaurateurs qui sont un peu en galère. Donc du coup, on essaye aussi de faire moite-moite, et soit en cuisine maison, soit on achète en click and collect, et voilà.
On a nos habitudes dans le vieux Lille et ça fait du bien de pouvoir sortir et de retrouver ces commerçants.
Ah, ils sont bien nos auditeurs, hein. Ils sont bien les gens de Lille. Voilà, on s'adapte, comme ils disent, on soutient. C'est vrai que c'est une période particulière, Ophélie, et que faire son marché, c'est un acte citoyen, hein.
Ah oui, non, mais c'est vraiment un rituel hyper agréable. Moi, j'y vais toujours sans liste de courses et je prends tout ce qui me plaît, tout ce que je trouve beau, tout ce qui me fait envie sur le moment. Et on mange un petit peu au marché parce que souvent, on vous donne un petit morceau de fromage, un petit morceau de saucisson. Alors, c'est compliqué en ce moment. Ils coupent et puis ils vous tendent la planche. Mais voilà, tout le monde est là.
Oui, c'est vrai qu'il y a des nouveaux gestes, il y a des nouveaux protocoles. Ouais. On est tous là avec nos masques, effectivement.
Bon, alors après, la question, c'est, on avait pris 2,5 kg, je crois, au premier confinement en moyenne. Si on doit encore en reprendre 2,5, il faut faire attention un peu quand même.
Manger, bouger, mon ami. Oui. Il faut manger, bouger et manger équilibré. Mais vraiment, si on respecte les saisons et qu'on ne confond pas bien manger et trop manger, mais c'est vrai que c'est tentant quand même. Hein.
Oui, puis on a des produits qui sont quand même un peu plus revigorants que pendant le premier confinement.
Il vous reste du saucisson ?
Bah, j'en reprendrai bien.
Vous mettez une petite tranche. Ouais. Allez, c'est parti. Voilà, c'est une météo parfaite en tout cas pour cuisiner en mode mijoté. Les produits tripiers, le pot-au-feu, le curry de porc, et bien on en cause juste après ça. A tout de suite.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
À bas les idées reçues et vive les produits tripiers. Ah, il l'a fait. Jean-Luc Arblade, Dancing Queen.
Non,
c'est pas Dancing Queen, c'est Dancing Riz de Veau et Foie de Veau aujourd'hui, mon Jean-Luc. Mais c'est vrai qu'on pense à ce groupe magnifique quand même quand on parle des abats. Alors, il faut partir...
y a groupe pour penser à ça, oui. Pour faire la liaison.
Ah oui, mais c'est notre esprit variété, que voulez-vous. Ils font partie de ce qu'on appelle le cinquième quartier. Nos grands-parents les appelaient les abats, justement. De la joue au gras double, en passant par la fraise de veau, la famille des produits tripiers est grande.
On va c'est faire... ce qui n'est pas attaché à la carcasse, en fait.
Exactement. Hein. C'est tous les morceaux qui ne sont pas attachés à la carcasse. On va faire un bel inventaire pour les mijoter. C'est une autre façon de les cuire. Tiens, Ophélie, vous qui venez de nous retrouver à cette table des bons vivants, et on va vous retrouver régulièrement avec nous. Quel morceau, tiens, pour remplacer la macreuse dans un bœuf bourguignon, par exemple? Vous choisiriez quoi?
Peut-être la joue de bœuf. Ouais, la joue de bœuf.
Hein. Ah, c'est bien la joue de bœuf, oui. Ah oui, moi j'aime bien.
C'est bon.
C'est fondant.
Exactement.
Un peu gélatineux.
Ouais, ça s'effiloche bien. Et puis ça, c'est jamais trop cuit, en fait. On peut aller lire un bouquin dans un bain et on retrouvera toujours sa joue de bœuf en bon état, quoi.
C'est l'avantage des cuissons longues.
Alors que nous, on aura un peu confit dans le bain, mais la joue de bœuf, elle sera...
Oui, elle n'est pas une heure près, ouais. C'est vrai. Oui, on peut la laisser 3 heures, même 4 heures. Il ne faut pas l'agresser, par contre. Hein. Il faut une température à frémissement. Il ne faut pas de gros bouillon quand on fait ces mijotés. Olivier, tiens-vous un produit tripier à oublier sur le feu? Vous choisiriez quoi?
Ben, puisqu'elle fait la joue, moi je fais toute la tête. C'est un peu culotté, hein. C'est la tête de veau. Il y a un chef, Jean-Pierre Vigateau, à Paris, qui en faisait une extraordinaire, servie entière, et ensuite découpée morceau par morceau pour constituer l'assiette. Bon, c'est pas à la portée de tout le monde d'abord de se procurer une tête de veau entière. Il faut quand même avoir un boucher qui est capable de vous sortir ça. Mais on peut la trouver
Rouler, oui. Et est-ce qu'il est moins intimidant quand on veut, entre guillemets, initier les gens aux produits tripiers?
Sinon, c'est spectaculaire quand même. Il faut bien avouer que la tête de veau qui arrive avec le persil dans les narines, c'est...
Je dois vous dire, je suis intronisé de la confrérie à la tête de veau de Rambervillers dans les Vosges et je ne suis pas peu fier avec une belle sauce gribiche.
C'est magnifique, c'est délicieux.
C'est un beau baptême. Hein.
Et puis, on fait un morceau d'un peu tout. Les joues, le museau, la langue.
Et les petites pommes de terre vapeur, et on est heureux. Alors, novembre, justement, est le mois des produits tripiers. Vous les trouverez, bien sûr, chez vos artisans tripiers. Sinon, chez vos bouchers charcutiers, parce que c'est vrai que les artisans tripiers sont un petit peu en voie de disparition, malheureusement. Alors, direction Lyon, justement, avec une résistante, c'est Tiffany Bourg. Elle kiffe la tripe avec son mari sur le marché de la Croix-Rousse et sur le marché Saint-Antoine à Lyon, la capitale des Gaunes et des Gaules. Petit casting des morceaux à mijoter ce week-end au micro de notre Jean-Luc Boujon, national amoureux de la tripe.
Moi, je trouve que c'est des produits très cool à travailler parce que bon, d'un côté, c'est un petit peu un truc de feignant, les cuissons longues, parce que bah, une fois que c'est lancé, mine de rien, il n'y a pas grand-chose à faire. Et souvent, pour les produits tripiers, toutes ces pièces qu'on va faire en cuisson longue, on va pouvoir les utiliser de différentes manières. La joue de porc, elle va se faire plutôt braiser. Moi, en général, je les marque, comme ils disent en cuisine, je les grille un petit coup, puis après, je mets un liquide pour que ça puisse rôtir, mijoter. Et ce qui est sympa avec la joue de porc, c'est qu'elle est très polyvalente, donc tu vas pouvoir mettre comme liquide du vin rouge pour la faire genre un peu comme un bœuf bourguignon. Tu peux le faire au lait de coco avec un petit peu de pâte de curry. C'est vraiment un produit qui n'est pas du tout particulier, quoi. C'est vraiment très passe-partout. Je vous prends un exemple tout simple que tout le monde va comprendre, c'est un pot-au-feu. Un pot-au-feu tripié, donc de la joue de bœuf, de la queue de bœuf. Ça mijote pendant plusieurs heures, 3-4 heures, voire plus si vous voulez faire plus doucement, plus longtemps. Moi perso, j'y cuis sur plusieurs jours, ça reste sur le coin du feu comme on dit. Que de la viande, que de la queue, que de la joue, avec un petit assaisonnement un peu moutardé, quelques cornichons. Ouais, y a pas besoin de plus hein, pour être heureux avec une petite salade.
Mais c'est bien dit, voilà un joli casting. Merci Jean-Luc Boujon et bravo Tiffany pour cette belle sélection. Et c'est vrai que, n'oublions pas de le dire, ce qui fait la particularité des produits tripiers aussi, c'est qu'ils ont du goût, quoi. Ils ont de la personnalité, Ophélie.
Oui, alors on a le droit de pas aimer. Hein. Ouais. Personnellement, j'adore tout ce qui est dans la tête, tout ce qui est dans les pieds. Au milieu, je suis moins fan.
L'onglet, par exemple, vous aimez ?
Oui, j'aime bien l'onglet, mais parce qu'il y a une texture
voilà.
En plus. Y a quelque
c'est un
chose
produit tripier,
qui...
je le dis, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas que c'est un produit tripier, comme la hampe, par exemple.
Oui, c'est des morceaux de viande qu'on n'attend pas dans cette catégorie-là. Mais surtout, ce qui est intéressant, à quelques exceptions près, c'est que les produits tripiers sont très accessibles. C'est pas cher. À part
alors,
le
riz
de veau.
Les prix, alors voilà, le riz de veau et le fouet de veau sont chers, voilà. Mais même le pied, même la langue, même ces morceaux-là ont un petit peu monté. Parce qu'il y a un petit peu moins d'abattage en France sur nos animaux, effectivement. Donc du coup, ça aurait fait gonfler certains prix. J'en parlais avec les bouchers, effectivement, on voit les prix qui... Mais on les trouve aux alentours, aller de 10-12 euros le kilo,
oui,
quand même.
Ce qui est beaucoup moins cher que les morceaux nobles.
Quel vin, tiens, pour accompagner le joli pot-au-feu tripier que nous a proposé Tiffany Bourg à Lyon ?
On était à Lyon. Lyon a la chance d'être entouré de vignobles qui correspondent parfaitement bien à l'esprit et au goût des produits tripiers. Alors si on va vers le nord, on est dans le Beaujolais, ça fait l'affaire. Si on descend un peu dans le sud, les vins du nord de la vallée du Rhône, c'est magnifique avec les produits tripiers. Et on pourrait même aller autour, les côtes rouennaises, etc. Il y a plein de vins dans la région lyonnaise qui fonctionnent bien.
Il y a un morceau aussi qui vient de redébarquer chez les bouchers depuis 2015. C'est la fraise de veau qu'on trouve dans l'andouillette. Ça, j'adore ça, une fois qu'elle est blanchie. Moi, je l'ai cuisinée à l'asiatique dernièrement avec de la sauce Nokman et de la sauce soja et du gingembre. C'est délicieux, la fraise de veau. Donc, voilà.
Le tablier de sapeur aussi, qu'est-ce que c'est bon.
Les produits tripiers sont nos amis pour la vie. Allez, c'est l'heure de répondre à vos questions, chers auditeurs. On va retrouver Fanny Rascle. Bonjour Fanny.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Fanny
bonjour.
Qui remplace bonjour. Marion Sauveur, que nous embrassons et qui nous écoute. Vous êtes fan de la tripe, Fanny?
Écoutez, pas forcément, mais là, vous m'avez mise en appétit. C'est déjà ça.
Tant mieux, c'est déjà ça. Alors, vous avez recueilli les questions sur plusieurs plateformes, on va
dire. Oui, sur la page Facebook des Bons Vivants, bien sûr, ou en appelant le 3921. Nous sommes là si vous avez besoin d'un conseil pour faire vos courses, une astuce en cuisine. Et on commence avec ce message sur le répondeur.
Bonjour les Bons Vivants, ici Fabien du Puy-de-Dôme. Je voudrais savoir ce que je peux faire avec un Cantal entre deux pour faire une sauce pour accompagner une bonne viande de salaire. Merci.
Oh, un Cantal entre deux, déjà comme ça, avec un bon pain grillé et un bon verre de blanc, c'est sympathique.
Ah
ça.
Oui, ça fait déjà l'affaire.
Hein, c'est déjà bien. Une petite sauce au Cantal, peut-être?
Pourquoi pas, évidemment.
C'est vrai que ça marche bien avec les viandes, parce qu'on pense souvent au bleu pour accompagner une viande, mais une sauce au Cantal avec un petit peu de bouillon de volaille, par exemple, du Cantal râpé, un petit peu de crème quand même, vous faites fondre tout ça, ça fait la liaison. Et quelques herbes fraîches par-dessus pour se donner bonne conscience. Voilà Fabien, ce que vous pouvez faire pour accompagner un onglet ou de la hampe, justement, on parlait des produits tripiers.
N'en rajoutez plus. Une autre question, c'est Sabine qui nous demande comment innover à la maison avec les poireaux. On va retrouver une recette un peu plus healthy, j'imagine. On a tout l'hiver à tenir avec les poireaux.
C'est vrai, il faut des fibres, vous avez raison. Ah bah tiens, Ophélie, vous êtes fan de poireaux, vous me disiez.
Ah ouais, moi il m'en reste jamais. Je les fais à la vapeur, grillés un petit peu pour pas que ce soit trop déliquescent, pour que ce soit un peu croquant encore.
Donc,
un petit peu.
Vapeur d'abord et grillé ensuite.
C'est ça, je les ressaisis derrière pour récupérer un petit peu de croquant. Et puis une vinaigrette avec un œuf dur écrasé comme ça.
J'adore.
Ça c'est trop bon.
Ça, c'est bon.
L'œuf et les poireaux, mais miam.
Olivier.
Moi, je transforme l'un de mes plats favoris belge, c'est-à-dire l'endive au jambon, en poireau au jambon, et on remplace l'endive par du poireau, ça marche de la même manière, on le roule dans le jambon, la béchamel, le fromage et hop.
Pas mal.
Et moi, je l'utilise aussi comme oignon, en fait, avec les ramen, des ramen en bouillon ou des ramen sautés. Je le coupe et puis je le fais sauter ou alors je le mets dans le bouillon et ça sert d'oignon.
Oui, parce qu'il a ce petit goût aillé, effectivement, le poireau. Voilà, c'est vrai que le poireau va nous accompagner à un bon moment cet hiver. Vive le poireau. Fanny, on continue à poser des questions. Hein.
Exactement. Sur le Twitter, sur Facebook, dans le groupe Les Bons Vivants d'Europe 1, au 39-21, 50 centimes par minute. Et puis, on vous propose aussi de vous abonner à notre newsletter Cuisine chaque semaine. Il suffit d'aller sur europe1.fr et c'est gratuit.
Et c'est gratis. comme on dit. Et il y a plein de conseils, il y a plein de recettes et vous retrouverez aussi les bons coups de fourchette de nos invités. Et à propos d'invités, Patrick Fiori nous rejoindra dans un instant. Fanny, restez avec nous, on se retrouve dans un instant aussi pour le journal de la cuisine. Et on vous a fait une belle sélection de livres de cuisine, chers auditeurs. A tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Quel vin déconfiné pour bien se confiner à table? Eh bien, on vous prépare une sélection de bouteilles indispensables pour votre cave. C'est notre tournée dans un instant et Olivier Pouls fait chauffer le tire-bouchon. Oui, parce que c'est vrai, il ne faut pas être pris de court quand même avec ces histoires. Mais avant de trinquer, c'est l'heure du journal de la cuisine de Fanny Rascle. Voici les titres, tiens. Malgré le confinement, des chefs ouvrent de nouveaux restaurants. Le prince Charles distille du gin et un podcast à écouter pour découvrir les bonbons de Flavigny. Inaugurer un nouveau restaurant pendant le confinement, ça peut sembler une folie, mais plusieurs chefs ont décidé de se lancer dans l'aventure, Fanny.
Et soyons clairs tout de suite, il ne s'agit pas de contrevenir à la loi. Ces nouveaux restaurants suivent les mêmes règles que les autres, que de l'avance à distance. Mais j'en ai trouvé plusieurs dans la presse quotidienne régionale et leur courage mérite d'être salué. Je pense au Mocassa, saveur de la Réunion qui vient d'ouvrir dans le Var, à Touchous qui propose de la croziflette du côté de Lille, aux délices de Bosquet dans la Sarthe ou à Sam's Burger qui s'est installé dans un bus dans les Deux-Sèvres. Alors évidemment, le défi est immense, mais pour certains, c'est l'occasion de tester des recettes, de se lancer petit à petit avec ce retour plus direct des clients.
Oui.
Et pour les autres, c'est une façon d'aller au bout de leur projet, de leur rêve, à la guerre comme à la guerre.
Restaurant à domicile pour eux, mais c'est vrai qu'on les félicite et on les encourage. Direction l'Angleterre maintenant avec le prince Charles qui innove.
Dans un autre genre, vous allez voir, il vient de lancer sa propre production de gin. La lavande, la sauge, le thym utilisés proviennent de son potager personnel, les céréales de ses champs. Il a créé sa ferme il y a 25 ans, tout est bio. Le prince de Galles ne délègue que la distillation. Le gin s'appelle Highgrove, comme sa propriété dans la campagne anglaise. Et la moitié des bénéfices sont reversés à une fondation caritative.
Et puis un podcast à écouter ce week-end pour découvrir la délicieuse histoire des anis de Flavigny.
Oui, vous savez, ces petits bonbons blancs avec une graine cachée à l'intérieur. Des moines bénédictins ont lancé la fabrication. Même Louis XIV avait un drageoir pour en manger. Et ce qui est passionnant, c'est que c'est une histoire de famille qui se perpétue de père en fille. Ce podcast produit par Europe 1 Studio s'appelle Marque de Famille. Pour l'écouter, ben, il suffit de s'abonner sur une plateforme comme Apple Podcast. Tiens, vous savez si ça se suce ou ça se croque, les anis de Flavigny?
Eh bien, moi, je commence par le sucer et ensuite je le croque. Je le fais en deux temps.
Les puristes ne croquent pas.
Ah ! Ben, je ne suis pas un puriste. Non.
Mais vous êtes un gourmand, c'est déjà ça.
Désolé, hein, messieurs, mesdames, des anis de Flavigny. Mais en tout cas, on a de belles boîtes ici. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs parfums, comme vous le disiez. Mais en tout cas, merci pour ce journal, Fanny Rascle. Et à
avec
la semaine
plaisir.
Prochaine.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Alors, vous le savez, à la table des bons vivants, on aime conjuguer la solidarité et la bonne chère. On soutient nos producteurs sur les marchés, on soutient nos restaurateurs qui vendent à emporter et on soutient aussi nos libraires qui font tout pour nous livrer de précieux millefeuilles en cette période bien délicate. Alors, on vous a fait une petite sélection de livres indispensables en cuisine. Il y a des classiques, il y a des livres qui viennent de sortir, il y a plein de choses à se mettre sous la dent en cuisine. On va commencer par vous, Ophélie, tiens.
Moi, j'aime toujours à boire et à manger. C'est une BD qui est dessinée par Guillaume Long, qui est un passionné de cuisine. Alors là, je parle d'un grand classique. Ça fait des années qu'il sort des tomes. Là, on a plusieurs tomes possibles à acheter. Et ce qui est génial, c'est que tout le monde n'est pas un grand gastronome, un grand cuisinier. Et lui, il part vraiment de la base et il raconte des histoires. Donc, vous pouvez tout à fait lire la BD au lit et le lendemain, l'appliquer en cuisine. Avec des choses tout aussi folles comme il croise un chef cuisinier avec qui il s'entraîne à la piscine et le type le méprise sur l'omelette. Il lui dit « Tu crois vraiment que c'est aussi simple de faire une omelette ?» Et oui, mais non, enfin, il y a plein de choses à faire. Il faut tourner la fourchette de telle façon et tout. Donc, c'est très drôle. On applique ou on n'applique pas. Lui-même, il tâtonne, il rate des recettes, il en réussit d'autres et ça nous donne envie. C'est simple et je trouve que ça donne beaucoup de bonne humeur en ce moment.
Vous avez raison, c'est drôle et en plus, on apprend des choses effectivement sur des techniques de cuisson. Moi, par exemple, Guillaume Long, avec qui j'avais fait une émission, m'a appris à faire un truc que je fais régulièrement. C'est la boîte de sardines à la cuire entière au four sous le grill. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une belle boîte de sardines, il l'ouvre, il enlève un petit peu l'huile qui est déjà à l'intérieur, de la sauce soja, du gingembre râpé et de l'ail, et vous mettez ça sous le grill du four. Et pour un apéro, je vous assure que c'est génial. Et c'est Guillaume Long dans sa bande dessinée À boire et à manger.
C'est ça.
Très joli choix, Ophélie. Mon cher Olivier.
Eh bien moi, je profitais du fait d'avoir un peu plus de temps pour faire quelque chose que je ne fais jamais, c'est de la pâtisserie. Je suis pas très bon, je dois vous l'avouer,
en pâtisserie. J'ai cru que c'était manger des légumes. Non, c'est la pâtisserie.
Oui, alors ça,
vous allez être obligé, là.
Régulièrement. Mais la pâtisserie, j'avoue que je prends le prétexte que j'ai pas le temps. C'est méticuleux, c'est pas instinctif, ou en tout cas, il faut déjà avoir un sacré
c'est
niveau.
C'est précis, ouais.
Et donc, je suis tombé sur un bouquin qui s'appelle « La pâtisserie de référence » de Jean-Michel Truchelu et Pierre-Paul Zayer. C'est une espèce de bible qui permet, même à un incompétent en pâtisserie comme moi, de réussir des choses. Alors, il ne faut pas exagérer non plus, mais en tout cas de s'attaquer aux bases.
Et vous ne lancez pas dans une pièce montée, alors qu'est-ce qu'on peut faire comme base, comme classique?
Par exemple, si vous voulez faire, des éclairs au chocolat, ou des choux, ou un Paris-Braise, des choses comme ça, bases des pâtes à tarte, faire une bonne pâte feuilletée, c'est le moment, on a un peu de temps, ça prend du temps, la pâte feuilletée avec les tours, etc. Alors, la pâte feuilletée inversée, je ne vous raconte pas, mais c'est tellement jouissif, et puis c'est tellement bon quand vous avez une vraie bonne pâte faite maison que bon, ça vaut la peine.
Redonnez le titre.
La pâtisserie de référence. Voilà, Jean-Michel Truchelu et Pierre-Paul Zayer.
Il y a Christophe Felder aussi qui fait de jolis livres de pâtisserie.
Beaucoup, ouais. Mais là, c'est vraiment le béaba. On reprend toutes les bases au départ.
Alors, mon livre, moi, c'est très simple. C'est Michel Guérard, Mémoire de la cuisine française. C'est la biographie. C'est plutôt les entretiens avec Benoît Peters, qui est un auteur de bande dessinée aussi. C'est chez Albin Michel. On connaît Michel Guérard. Il est venu à cette table. Voilà, c'est le doyen des chefs cuisiniers aujourd'hui. Mais c'est surtout le plus jeune et le plus inventif encore des chefs cuisiniers. C'est lui qui était avec Bocuse et Trois Gros, l'inventeur de la nouvelle cuisine. C'est lui qui a été l'inventeur de la grande cuisine minceur qu'il pratique encore aujourd'hui à Eugénie-les-Bains.
Oui, alors bon, ça, c'est peut-être pas ce qu'il a fait plus extraordinaire.
Il y a de belles choses, il y a de belles choses chez Michel Guérard.
Trois légumes cuits à la vapeur
dans une assiette. Non, il n'y a pas que ça. Non,
mais c'est important avec le confinement, quand on ne bouge pas, de savoir cuisiner léger.
Non, justement, il a montré que la grande cuisine minceur, elle était gourmande aussi, avec de jolies sauces, effectivement, qui sont travaillées de manière différente. Et on retrouve toute sa vie dans ce livre, donc je vous le conseille vraiment. Michel Guérard, Mémoire de la cuisine française. Chez Albin Michel, avec le bel épisode du pot-au-feu à Nières. C'est comme ça qu'il s'est fait repérer, Michel Guérard. Et si vous voulez commander, n'hésitez pas. Il y a le site Livre Hebdo pour commander des livres. Et puis appelez le libraire à côté de chez vous. On en parlait la semaine dernière avec Johan Sfar. Si votre libraire n'est pas équipé en digital, en click and collect, il y a toujours le petit coup de téléphone qui vous permet de vous donner rendez-vous pour venir le chercher en allant faire vos courses alimentaires. Alors, entre les apéros Zoom et les repas à la maison, votre cave en a peut-être pris un petit coup dans l'aile durant le premier confinement. Et si vous n'avez pas de cave, vous avez certainement envie d'avoir quelques bouteilles en réserve à la maison. Quel vin choisir pour bien se confiner? Eh bien, avec Ophélie Neyman et Olivier Pouls, on vous a préparé une belle sélection. Alors, que les choses soient claires, chers auditeurs, pas d'incitation évidemment à devenir accro au goulot, mais un bon verre, ça fait partie des petits plaisirs du confinement, avec modération, mais avec plaisir tout de même. Qu'est-ce que vous avez bu, Ophélie Neyman, pendant le premier confinement? Je rappelle, si vous venez d'arriver, chers auditeurs, qu'Ophélie est une nouvelle venue à la bande des bons vivants. Vous la retrouvez avec sa chronique vin dans le journal Le Monde, et elle va nous dire ce qu'elle a bu pendant le premier confinement. Elle a éclusé sa cave.
Ouais, j'ai fait comme tous les Français qui ont une cave. Je l'ai d'abord vidée. Je l'ai covidée avec mon mari.
Oh, joli.
Et puis ensuite, il fallait bien trouver des choses. J'ai essayé des grands vins. Il n'y avait pas trop l'humeur. J'ai essayé du champagne. C'était bien, mais ça coûtait cher. Et finalement, une bonne bière. Juste une bonne bière. Ça marche bien, ça. La parisienne, parce que finalement, j'étais confinée à Paris. Et même si je ne suis pas parisienne de naissance, voilà, j'ai dû m'y faire. Et puis, une IPA que j'adore de la brasserie Rabourdin, qui est en Seine-et-Marne. Et il y a une particularité, c'est que tout l'orge de la bière est fait sur place, parce que c'est une ferme aussi agricole.
Les IPA, ce sont des bières qui sont plus portées sur l'amertume, plus houblonnées, on va dire, effectivement, et qui peuvent aussi déstabiliser certaines personnes qui aiment les bières un peu plus neutres.
C'est ça, hein. Mais souvent ça sent un petit peu le fruit de la passion, oui. Et puis les fleurs. Alors oui, il faut aimer l'amertume, mais je trouve que les saveurs du houblon sont assez géniales.
Cher Olivier Pouls, alors vous qu'on retrouve régulièrement à la table des bons vivants et dans la revue du vin de France également, ne l'oublions pas, qu'est-ce que vous avez pendant le premier confinement?
Le premier confinement, j'étais confiné en Bourgogne, dans le nord de la Bourgogne. Donc j'ai commencé par me balader un peu autour de chez moi, dans l'Yonne. J'ai redécouvert des vignobles qui ne sont pas forcément les vignobles de Bourgogne les plus connus. Je pense par exemple au vignoble d'Irancy, je pense aux Côtes d'Auxerre. Et puis un peu plus loin, j'ai découvert aussi un magnifique pétillant naturel, ce qu'on appelle un Petnat.
Ah oui, vous en avez parlé
de Bourgogne,
ici. Ouais.
Exactement, que j'ai trouvé absolument délicieux et puis surtout très accessible. Et après, je suis allé un peu plus loin et je vous en parlais tout à l'heure pour découvrir notamment dans le Languedoc ou redécouvrir quelques petites appellations et des vins qui apportaient un peu plus de soleil, on va
dire.
Oui,
parce qu'on va déguster dans un instant. Restez avec nous. Tiens, Ophélie, d'abord, comment et qu'ont bu les Français? Vous avez relevé le niveau des caves. Racontez-nous ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce que nos concitoyens ont bu pendant le premier confinement?
C'est assez bizarre parce qu'on a l'impression d'avoir bu davantage, mais les vignerons ont beaucoup moins vendu, puisqu'ils ne vendaient plus dans les restaurants ni dans les bars. Et même les supermarchés ont d'abord encaissé une grosse chute de vente de vin, alors que tous les autres produits explosaient. On était à plus de 25% pendant le confinement. Et là, on était aux alentours de moins 8% sur le vin, avec un effondrement champagne, par exemple, plus de moins 50% des ventes de champagne.
On
n'est
pas
normal.
Tellement la tête à ça. Il faut
c'est
dire.
Ça. Mais malgré tout, il y a des choses qui, elles, ont augmenté. Le rosé. On a observé plus 8% de ventes de rosé.
Il a fait très beau.
Il a fait beau. Et puis surtout, on a observé des grosses chutes de valeur. C'est-à-dire que les Français achetaient des vins moins chers. Et le rosé fait souvent partie des vins moins chers. Autre vin qui a bien monté, ce sont les cubis, plutôt les bag-in-box, hein, ces fameuses poches de 3 ou 5 litres. Ceux-là ont vraiment augmenté. On a observé jusqu'à plus 22% de volume de bibes achetées.
Oui, la qualité a progressé des cubis. Hein. Olivier, vous en aviez parlé. Maintenant, on trouve des vins vraiment de copains,
d'abord,
des bons vins de soif.
On trouve des bons vins qui sont mis en cubis aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et puis surtout, la technique du cubitainer en lui-même a beaucoup progressé aussi. Vous l'avez dit, avec cette espèce de poche en plastique qui épouse finalement la forme du vin et donc qui ne l'oxyde pas. Et si vous buvez le cubi sur une semaine, il n'y a aucun problème.
Alors nous sommes confinés, hein, y a des restrictions, on a le droit d'aller faire nos courses alimentaires ou acheter du vin. Bah alors bien entendu, les cavistes restent ouverts, la grande distribution également, mais les restaurateurs aussi vendent du vin, Olivier.
Ah oui, c'était pour eux une alternative finalement pour maintenir des chiffres d'affaires. Certains vignerons ont vendu leur cave par besoin, hein, pour faire de la trésorerie, mais d'autres, voyant le succès, ont continué à acheter le vin auprès des producteurs et se sont un peu substitués aux cavistes. Alors ça ne fait pas toujours plaisir aux cavistes de voir qu'ils ont une concurrence des restaurateurs, mais c'est vrai que ceux qui font de la vente à emporter en général vous permettent d'acheter la bouteille qui va avec. Vous rentrez avec le package complet chez vous, vous avez l'accord mes vins à la maison.
Et en grande surface, on trouve aussi des choses abordables et buvables, il faut le dire, Ophélie. Hein.
Bah, d'autant plus que certains vignerons qui n'ont pas pu vendre à la restauration se sont tournés vers les grandes surfaces et ont dit voilà, est-ce que vous ne voulez pas nous prendre quelques bouteilles ?
Oui, donc ça veut dire qu'on va avoir des références qu'on n'aurait pas eues en temps normal, vous voulez dire en grande distribution.
Tout à fait, aussi bien sur des grands châteaux bordelais, on les a vus, qui apparaissaient en foire au vin alors qu'on ne les voyait pas avant, mais aussi des petits, hein. Moi j'ai vu du Beaujolais, j'en ai vu de la Loire, des vrais vignerons qui normalement ne s'adressent qu'aux cavistes et aux restaurateurs, et là ils se sont bien dit, bon bah, faut
et
vendre.
Et vous qui aimez les vins nature, il y a de beaux Beaujolais nature, hein. Ils ont été les premiers justement, ne l'oublions pas, à faire beaucoup de travail sur cette naturalité autour du vin, et on en reparlera tout à l'heure aussi. Voilà pour les points de vente, chers auditeurs, et la façon de remplir votre cave. On va maintenant ouvrir quelques bouteilles pour vous donner des idées de vignerons et d'appellations à adopter. A tout de suite.
La table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Nous savons désormais où nous approvisionner, mais quel vin choisir pour bien confiner ? Eh bien, on vous dit tout de suite et vous retrouverez évidemment tous ces conseils, hein, et toute l'émission sur le podcast que vous retrouverez sur Europe 1.fr. Alors, pas question, hein, bien entendu, de devenir dépendant, mais on l'a bien vu, hein, le petit verre du confiné est devenu un rituel pour beaucoup. C'est quoi un vin de confinement pour vous ? Tiens, on va commencer avec vous, Ophélie.
Moi, j'aime bien les vins qui réconfortent. J'ai souvent un ou deux vins que j'appelle mes vins doudous et que je bois quand j'ai un coup dur, genre un cambriolage, un truc comme ça.
Ah hop, oui, oui, oui. Bah quand même, oui, c'est non, vrai. Mais...
Et dans ce cas-là, je sors toujours ce vin, notamment un Côte de Nuit Village du domaine Chevalier. C'est Chloé Chevalier maintenant qui le fait. C'est
elle qui avait créé cette... Vous ne pouvez pas cambrioler souvent quand même.
Non, mais ça me parle parce que moi, on a eu une tentative, effectivement, et j'ai fait comme vous, j'ai ouvert une bonne bouteille.
Tout de suite à la cave.
Mais oui, pour voir si on nous a rien piqué quand même.
Il ne faut pas qu'il pique les bouteilles. En
non,
tout cas.
Surtout pas. C'est quoi un vin de confinement pour vous, Olivier ?
Mais moi, je trouve que c'est le moment aussi, comme on a un peu de temps et qu'on a plus de visibilité sur notre emploi du temps. J'ouvre par exemple je suis d'accord sur le côté doudou, des vins liquoreux. L'avantage d'un vin liquoreux, c'est que ce sont des vins qui se tiennent. Vous ouvrez une bouteille de Sauternes ou de grands vins liquoreux d'Alsace ou d'ailleurs, vous remettez le bouchon, vous la mettez au frigo, vous pouvez la boire sur une semaine sans aucun problème. Donc, ce n'est pas une incitation justement à l'alcoolisme, à finir la bouteille. Je trouve qu'un petit verre de vin liquoreux, bah voilà, le soir, tranquillement.
C'est quoi, un Jurançon,
c'est vrai que, par exemple, les grains nobles d'Alsace,
ah oui.
Il y en a plein partout en France. Et justement, c'est ça qui est bien, c'est que le vin se garde au frigo.
Oui, ça se fait, on peut le garder un peu plus longtemps.
Pas,
absolument.
Pas.
Alors, on va déguster, tiens, justement, pour ce deuxième confinement et vous aider à bien choisir. Qu'est-ce que vous avez choisi et qu'est-ce que vous avez sélectionné, Ophélie, pour nos auditeurs ?
Moi, j'ai pris un grand vin, pour une fois. Ça s'appelle La Griffe du Diable et je trouvais que le nom, il était quand même bien, quoi, avec cette satanée année 2020.
C'est
on
vrai.
Est quand même en année diabolique. Donc, La Griffe du Diable, c'est celle qui va un peu nous griffer, mais on va l'aimer. C'est un Riesling 2018 de la cave de Pfaffenheim. Alors, en plus, c'est bien parce que la cave de Pfaffenheim, Canheim, c'est une cave coopérative qui fait du super vin. Et c'est bien les caves coopératives, il faut y penser. Elles font des excellents vins. Ça, c'est leur grande cuvée, en Riesling. Alors, c'est un vin un peu contemplatif, hein, presque méditatif, ça tombe bien, on a le temps. On prend un livre, on le déguste. C'est pas tout en fruits, tout en machin. Non, là, c'est plutôt pétrolé, c'est plutôt droit, ça se tient bien.
Quand vous dites pétrolé, c'est vrai qu'il y a... Alors, c'est vrai que ça peut paraître surprenant.
Petite
mais...
note un peu hydrocarbure qui est souvent un marqueur des Riesling alsaciens, surtout quand ils vieillissent.
C'est rare qu'on les sente ailleurs. C'est vraiment une odeur qui permet de distinguer le Riesling.
Ah oui, c'est ample, ça prend de la place. C'est très fruité, ça, dites donc.
Ouais, mais c'est pas doux, hein, c'est pas tendre. C'est quand même très sec. Il y a de l'acidité, voilà. Ça se tient.
C'est un Riesling contemporain dans le sens où aujourd'hui on cherche de la tension et de la fraîcheur dans les vins d'Alsace qui n'en ont pas toujours eu. Et là, je pense qu'il n'y a pas ou très très peu de sucre résiduel et on termine sur une très jolie acidité salivante.
C'est ça, c'est fruité sur l'attaque, mais après effectivement il y a une tension comme vous dites. Combien ça coûte ça, Ophélie?
Ah, ça coûte quand même 18 euros. Oui, je suis désolée.
Mais
on n'est pas obligé de la boire en une seule fois.
Exactement, on la boit sur plusieurs jours, absolument. Un vin, cher Olivier.
Eh ben, c'est un vin que j'ai découvert lors du premier confinement, justement, j'en ai commandé, j'ai eu un coup de cœur pour ce vin. Là, je vous emmène dans le Pays d'Oc, hein, c'est un IGP du Pays d'Oc, le domaine de Luc, la famille Fabre, et c'est un assemblage Syrah-Viognier. L'assemblage Syrah-Viognier, c'est un assemblage très particulier qu'on trouve notamment... enfin presque exclusivement qu'à Côte-Rôti. Il faut savoir qu'à Côte-Rôti, c'est la Syrah qui est dominante, mais on a le droit de rajouter une petite touche de Viognier qui est un cépage blanc.
C'est bon, c'est drôlement bon.
Et alors ça, c'est plein de fruits. Ah, ça a cette petite note un peu poivrée.
C'est confit au nez aussi, un côté fruit confit, pruneau confit un peu.
Très légèrement poivré, très légèrement fumé, ça c'est la marque de la Syrah. La rondeur florale qu'on a en bouche, c'est le Viognier. Ça ne fait que 13 degrés d'alcool pour un vin du Pays d'Oc. C'est pas mal, donc ça reste très digeste. Et moi, ma chère fille, je suis à moins de 10 euros. Je suis autour de 9 euros.
Ah, joli. Alors, d'habitude, on dit qu'est-ce qu'on boit avec ça. Mais là, je vous dis qu'est-ce qu'on mange avec ça, alors.
Ah, ben, on était dans les produits tripiers. Vous me parlez tout à l'heure d'une jolie pièce de bœuf en onglet. Allez, hop, directement, un onglet bien grillé avec ça, c'est parfait.
Oh oui, ça s'appellerait à notre camarade Yves Candebordes qui nous écoute et qu'on embrasse et qu'on retrouvera bientôt à la table des bons vivants. Et vous, Ophélie, qu'est-ce qu'on mange avec votre jolie Riesling?
Eh ben, on n'a pas besoin de manger beaucoup parce qu'après tout, on ne bouge pas. Des œufs sur le plat, des haricots verts, quelque chose d'assez simple. Ma foi, le vin, il est suffisamment
c'est
chic pour le faire.
C'est plus la saison des haricots verts. Ah, quoique, j'en ai encore vu.
Ah, j'en ai vu.
J'en ai vu sur le marché. C'était magnifique, ça me dit.
Oui, ça m'a surpris. On en voit encore un peu. Vous avez raison. Donc, oui, alors si les dernières haricots verts, vous avez raison, on en profite. Non, mais j'étais surpris, mais il y a encore des haricots verts. Il n'y a plus de saison,
un
ma bonne dame.
Un petit tartare de poisson, si je verrais bien.
Oh, c'est bien, ça. Voilà, buvez bien, mais avec modération, chers auditeurs. Buvez bon, mais pas forcément cher. Et puis, laissez-vous guider par votre curiosité. Bon appétit et large soif, comme disait Monsieur Paul. On vous mettra évidemment les références sur europe1.fr. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec un beau plat du jour que vous pourrez refaire, mais ultra facilement, easy, ce week-end. Bon samedi midi et bonne cuisine hein, si vous êtes en train de la faire. Et si on chantait sur Europe 1, tiens, avec Florent Pagny et puis notre invité qui va arriver, Patrick Fiori, J'y vais, c'est le titre de sa nouvelle chanson. Eh bien, allons-y.
Faut marcher une vie entière pour voir mon enfance dans les yeux. J'y vais. S'il faut retrouver sa lumière quand la chandelle en vaut le jeu. J'y vais. Comme un tout premier regard. Le début de mon histoire. Et dans chacun de nos pas, on l'emporte comme une ombre. D'ici jusqu'au bout du monde, qu'importe où le temps nous porte. Traverser les mers pour embraser les terres de feu. J'irai retrouver mes rêves d'hier pour leur donner le monde en mieux. J'y vais quand le passé me distance. Et dans chacun de nos pas, on l'emporte comme une ombre, d'ici jusqu'au bout du monde, qu'importe où le temps nous portera. Il est la voix qui nous chante, joli fantôme qui nous hante, cet enfant qui ne nous quitte pas. Dans les chansons, les prières, tous nos secrets perdus dans le temps. J'y vais dans ces printemps sans hiver, dans tous les miroirs aux reflets d'avant. J'y vais, c'est dans chacun de nos pas.
Deux voix, et quelle voix mes amis. C'est la première fois qu'ils chantent ensemble, dites donc. Florent Pagny avec notre invité Patrick Fiori, extrait du tout nouvel album Un air de famille de Patrick Fiori. Bonjour Patrick.
Et bonjour à vous, bonjour tout le monde.
Bonjour. Ravi de vous accueillir. C'est dingue, vous êtes copains de régiment, j'allais dire, pratiquement avec Florent Pagny, et c'est la première fois que vous faites un duo ensemble comme
oui,
ça.
Oui, mais parce que pour attraper
pour attraper Florent, c'est pas facile à dire.
Pour attraper Florent... c'est compliqué parce qu'il est partout en même temps et voilà, donc c'est, ouais, et ça fait 10 ans que je lui cours derrière pour lui proposer une chanson. J'attendais la bonne certainement et puis elle est arrivée.
Elle est bonne.
Voilà, je lui ai proposé et il a embarqué tout de suite quoi.
Bravo, votre album s'appelle Un air de famille. On a besoin de la famille justement en ce moment. Vous racontez des histoires d'amis, des histoires d'amour dans cet album. Vous êtes auteur de certains titres, compositeur de la plupart, et on peut même dire que vous avez reconstitué votre famille artistique pour cet album.
Ben oui, ben j'ai appeler les copains, tout ça. Puis ouais, moi, j'adore faire de la musique. Et en fait, c'est lié. C'est-à-dire que mon air de famille avec ma famille de sang et ma famille de cœur, donc la musique, tout le monde se connaît, quoi. Je veux dire, ma mère connaît Soprano, mon père connaît Slimane. Enfin, voilà, ils se connaissent bien. Et à chaque fois, il y a ce joli lien, ce joli pont. Et ça passe au travers de la bouffe, tout ça. Ça passe au travers de la cuisine. Avec Florent, dans la chanson, on aurait pu chanter « Et dans chacun de nos plats », par exemple. Vous voyez, ouais,
oui.
Et dans chacun de nos plats. Ouais, de nos verres.
On veut la primeur de ce
oui.
De la prochaine fois.
Non, mais c'est ça qui est génial. C'est que dans votre émission, je me sens bien. Enfin, en tout cas, je me sens à ma place parce que tout passe par là.
Ben, je
tout
sais passe par là. Que par, vous êtes un bon mangeur. Ça fait des années qu'on se croise et je sais que vous aimez bien boire, bien manger. Vous êtes un bon vivant, comme on dit.
Oui.
Quel est votre goût de la semaine, alors, justement,
alors, le goût
Patrick
de la semaine, ce sont des pâtes vivantes et c'est travaillé d'une manière très particulière. Donc, j'invite les gens à aller voir un peu sur le site. Et c'est de manière très particulière parce que ce sont des pâtes qui sont très
aérées. C'est un
resto
qui s'appelle les pâtes vivantes,
oui.
Un restaurant.
Oui.
Un peu asiatique.
Mais
parce
que la pâte n'est pas encore un animal. Hein.
Non, non pour l'instant, non. Attention, il faut faire attention.
Eh ben, on élève des pâtes bientôt.
Et donc, les pâtes sont travaillées parce qu'elles sont tirées, elles sont frappées sur à peu près 40 ou 50 cm, voire plus. Et c'est un travail, en fait, c'est très artistique, quoi, la manière dont ils préparent ces pâtes-là. Et évidemment, on peut y trouver toutes les sauces qu'on veut avec viande, poulet, tout ça. Mais ça a un goût très particulier et vraiment, c'est fabuleux.
Et un joli spectacle dans la vitrine parce que ça se passe devant vos yeux. Alors, la Corse, c'est votre deuxième patrie, on le sait, Patrick Fiori. On va parler de vin corse, justement, avec Ophélie Neyman, qui est à côté de vous, qui est une nouvelle recrue, hein, si vous venez d'arriver sur Europe 1. Je vous présente Ophélie Neyman, que vous retrouvez dans le journal Le Monde, qui écrit sur le vin et qui va venir aussi régulièrement nous parler bouteilles et jolis flacons à cette table. Vous êtes amateur de vin corse, forcément, Patrick?
De vin tout court, de vin corse, évidemment, parce que je trouve qu'ils font des efforts. Enfin, en tout cas, ces 10 dernières années, il y a eu des efforts considérables par rapport à ces pages. Enfin, ils ont réussi vraiment à avoir des vins de haut niveau. niveau quoi aujourd'hui.
Bah, c'est le sens de votre chronique justement, Ophélie. C'est vrai que les vins corses ont énormément progressé et il y a de très très jolies découvertes aujourd'hui. Hein.
Bah oui, c'est ça. Non mais vous avez déjà tout dit en fait. Vous avez une chance de dingue vous, parce que dès que vous prononcez le mot Corse à un amateur de vin, il saute au plafond. Moi je viens de Lorraine et franchement j'ai beau être chauvine et j'ai beau savoir qu'on a fait des progrès, franchement on vous arrive pas à la cheville sur le vin. La Corse, c'est le vignoble qui a fait le plus de progrès en 20 ans. C'est le vignoble qu'on n'a pas le droit de critiquer sous peine de passer pour un gros naze. Voilà ce que je dis.
Non mais vous avez raison. La Lorraine, on a du bon vin de rhubarbe hein, quand même. De 2020 à année du vin, on a envie de s'évader avec la Corse par exemple.
Mais oui, parce que quand on parle de vin corse, en fait on parle de voyage. Parce qu'on a quoi dans un verre de vin corse? On a les parfums des herbes du maquis, on a les notes épicées des forêts de pins, on a les odeurs iodées de l'océan qui sont charriées par le vent, on a le côté minéral des falaises, des cols escarpés. Il y a tout ça. Et j'ai même pas parlé des tanins qu'on trouve dans les vins rouges. Ils sont aussi ténébreux qu'envoûtants. Franchement, c'est gênant tellement c'est beau.
Ça devient sexy, hein, limite. Hein, vous êtes... Et tout ça déposé sur un bloc de granit dressé vers le ciel.
Bien sûr, magnifique. Mais c'est sensuel. La Corse est sensuelle. Alors c'est vrai que c'est beau, c'est bon, Ophélie. Pourquoi c'est devenu si bon le vin corse alors que ce n'était pas gagné au départ, effectivement?
Oui, parce que les vignerons se sont enfin réconciliés avec leur identité insulaire sur les raisins. Ils ont enfin viré de leur terre les cépages qu'on trouve partout dans le monde et dont on se fout complètement pour replanter des raisins corses qui font des vins qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Alors je vais le dire avec un accent pourri, mais voilà, on a du Nieluccio, du Saccarello, du Bianco d'Antile et même le Vermentino. Regardez, c'est le raisin blanc incontournable. Il fait des vins qui sentent l'anis, la fleur de fenouil, la pâte d'amande, c'est génial. En Provence, il existe aussi, mais il a un nom, il s'appelle le Rolle. Franchement, le Vermentino, c'est tellement plus beau.
Oui, c'est vrai que c'est plus joli. Et puis, il est meilleur.
Forcément.
Excusez-moi.
C'est spontané. Quelques références tient de vin corse pour garnir sa cave, Ophélie?
Ah bah, franchement, une bouteille d'Abatucci, du Clos Canarelli, du Clos Hollywood, de Jean-Baptiste Arena, évidemment. Moi, je veux bien entendre plein de chants corse si on m'offre une bouteille. Franchement, ah,
mais on peut aller jusqu'à la caisse. On peut aller jusqu'à une caisse.
Et puis, quand même, je précise, il y a plein de femmes qui font du vin corse. Il y a 30% des vins corses qui sont bio. Ça, c'est moderne. Moi, c'est ça que je veux boire aujourd'hui.
Ils sont bio et depuis le début, pratiquement. Et depuis le début, ils viennent bio depuis le début, pratiquement.
C'est vrai. Donc, découvrons les vins corses.
Il y a juste un hic, ils sont assez chers.
Pas si on les achète sur place.
Oui, parce qu'on ne paye pas la TVA là-bas. Ça, c'est vrai que c'est dingue.
C'est 20% de ristourne tout de suite.
Patrick Fiori, malin Patrick Fiori.
Non, mais non, mais écoutez, moi, c'est ma mère qui est née là-bas.
Votre maman, on a une surprise avec votre maman tout à l'heure, je le dis à nos auditeurs. Et on parlait de chant corse. Eh bien, tiens, avant la pause, on va en écouter un joli de chant corse. C'est vous ça?
Eh oui, il paraît.
Eh oui, c'est vous. C'est les débuts de Patrick Fiori.
C'est les débuts, ouais. Avec les cheveux longs et les boutons un peu partout sur le visage, c'est un peu ça. Ouais.
Ne bougez pas, on revient dans un instant avec un beau plat du jour cuisiné par la jeune chef Alexia Duchesne. Une recette pour vous, juste après les titres d'Europe Midi présentés par Fabienne Lemoyle. A tout de suite sur Europe 1.
Le vrai camembert, c'est AOP, au lait cru de Normandie.
Genre ce côté chlorophylle.
Et il est beau ce veau, il a fière allure, il a le béret sur la tête.
Europe 1, 11h, 12h30.
Un petit trait d'huile d'olive, sel, poivre, ça c'est délicieux aussi.
La table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Merci de nous retrouver, si vous venez d'arriver, nous sommes ensemble depuis 11h et on dresse le couvert jusqu'à 12h30. Vous pouvez retrouver, vous le savez, l'émission sur le podcast, hein, sur europe1.fr. Alors depuis 11h, nous avons tendu la joue et pris notre pied avec les produits Tripier. Nous vous avons fait une belle sélection tannique et tonique pour reconfiner votre cave. Et nous revoilà avec notre invité, chanteur et bon vivant, c'est Patrick Fiori. Tout se passe bien, Patrick?
Impeccable, super, j'ai des merveilleux vins à déguster, voilà, tout est au top, bravo.
Un air de famille, c'est le titre de votre nouvel album. Vous nous chantez le bonheur et les rebondissements de la famille dans cet album. Et dans la vie, c'est vrai que les airs de famille se jouent aussi à table. Est-ce que vous avez des souvenirs de belles tablées comme ça qui vous viennent spontanément?
J'ai des souvenirs de belles tablées parce que, pour tout vous dire, encore à l'époque, plus aujourd'hui, on se parlait en chantant en fait. On faisait des tiers me respondent. C'est-à-dire que les gens réglaient leur compte ou se disaient qu'ils s'aimaient en chantant. Et ça, c'est
ça donnait quoi, par exemple? Par exemple.
Et comme vous espérez que soient bien à vos mains. Comment tu vas? J'espère que tu es en pleine forme. Et en fait, les gens ne se parlaient pas, mais ils se chantaient à table. Mais ils se chantaient des belles choses et des moins belles aussi. Donc, avec ça, bien évidemment, c'était souvent dans des grandes réunions, genre des Noël, des Toussaint, voilà. Il y avait des grandes tables cuisinées, évidemment, beaucoup par toutes les femmes, puisque chez nous, on nous interdit un peu de cuisiner, quoi. C'est pas... Quand on a envie d'y aller, non, tu restes tranquille, tu as beaucoup travaillé. Donc voilà. Et c'est absolument pas du machisme, c'est juste que, bon, après, j'ai réussi à m'écarter de toutes ces femmes et à cuisiner un peu tout seul, quand même.
Vous cuisinez un peu régulièrement à la maison ?
Je cuisine un peu régulièrement, ouais. Bah, c'est-à-dire que quand j'arrive à pas être écroulé de fatigue de par mon travail, bien sûr, quand il y a des produits à la maison, bah, des produits frais, beaucoup, parce qu'on a le marché qui est
oui,
juste à côté.
Oui, vous aimez faire le marché.
Bah, j'adore ça. Déjà, rien que pour cette multitude de couleurs et ces gens merveilleux qui sont là tous les matins à vous conseiller et à vous dire, voilà, plutôt celui-là.
C'est
j'adore
quoi
ça.
Votre plat signature quand je vais manger chez Patrick
Moi
Fiori ouais.
Bah, écoutez, ma mère le sait pas encore, mais je sais faire ces feuilles de vigne maintenant, ça oh. y est. Et j'ai mis presque 30 ans pour apprendre.
Alors, les feuilles de vigne de la maman de Patrick Fiori, les feuilles de vigne de Marie-Antoinette à la viande.
Ah,
ah, oui, pas du tout comme en Grèce, ça n'a rien à voir.
Ah, non, rien à voir.
Elle est d'origine arménienne.
Non, elle est corse.
Oui, elle est corse,
mais
c'est votre
elle
papa.
A été obligée d'apprendre par rapport à mon papa.
C'est ouais. papa qui est d'origine arménienne. Donc, restez avec nous parce que Marie-Antoinette, votre maman, sera là tout à l'heure pour sa recette. Mais en attendant, tiens, c'est un autre plat du jour avec une jeune chef que vous connaissez, chers auditeurs. C'est Alexia Duchesne, que vous avez découvert dans Top Chef. Elle a 25 ans. Et Alain Ducasse vient quand même de lui confier les fourneaux du restaurant Allard à Paris, qui est une institution du restaurant, du bistrot avec un grand B
parisienne,
à la parisienne. Elle est avec nous au téléphone. Bonjour, ma chère Alexia Duchesne.
Bonjour.
Ça va bien ?
Très bien, et vous ?
Eh bien, très très bien. Alors, on vous a découvert dans Top Chef, vous allez avoir 25 ans dans deux semaines. En attendant la réouverture de restaurant, vous rebondissez sur TikTok, comme on dit. Hein.
C'est ça.
Alors,
voilà.
Vous faites des recettes sur TikTok, sur le réseau social. Qu'est-ce que vous faites ? Racontez-nous.
Bah, j'ai décidé de faire des recettes déjà assez courtes. Donc, c'est un format de 30 secondes à une minute où tous les jours, je propose des recettes à base de légumes et de fruits de saison. Très facile à faire, réalisable par tout le monde et assez ludique.
Alors, voilà. Il y a beaucoup de junk food hein, sur TikTok. Quel genre de recette vous pourriez nous proposer aujourd'hui pour le plat du jour ?
Une soupe, un bouillon de légumes dans le style d'un minestrone, mais avec un bouillon de bœuf et de la ventrèche de pendard de Bigorre. Donc, on part en coupant du pendard de Bigorre en petits cubes et on va venir la rissoler dans une casserole.
Mmh.
Ensuite, on va tailler des beaux légumes, carottes, oignons, fenouil, céleri. Dans un taillage paysanne, ce qui veut dire des morceaux d'environ 1 cm
cube. Oui, c'est grossier, voilà. Voilà, on peut tous
grossier,
le faire, ça.
Exactement. Donc, on vient isoler le céleri et le fenouil. Et ensuite, on va tout simplement déglacer donc ces sucs des légumes avec boîte de tomates italiennes, des tomates en conserve.
Oui, il y en a des bio, on en trouve des bonnes en plus. Ça, c'est vrai
voilà.
que même si on trouve des tomates encore bien mûres, parce que c'est la fin des tomates, là, c'est la toute fin.
C'est ça. Ensuite, vous prenez soit si vous avez, moi j'achète les bouillons chez Ariake
oui.
en grande surface de bouillon de bœuf qui sont super. Sinon, vous mouillez avec de l'eau, 1 litre. Et ensuite, une gousse d'ail écrasée, un peu de thym, un peu de laurier. Et vous laissez mijoter à peu près 45 minutes. Ensuite, vous salez, bien poivré, un peu de piment, moi j'aime bien. Et puis, rajoutez à la dernière minute des brocolis et des pâtes.
Ah, pas mal,
des
ah,
pâtes,
oui.
Soit je casse des spaghettis.
Oui.
Pour faire un peu comme les pasta fagioli en Italie.
Eh
sinon,
oui, bonne idée.
Des petites mésées maniquées, des petites pâtes, voilà.
Eh ben, merci à vous, Alexia Duchesne. Nos amitiés à Alain Ducasse. Et on retrouve la recette complète sur Europe1.fr et sur TikTok.
Moi, j'aurais adoré, quand j'étais étudiante, avoir accès à TikTok avec des recettes
ouais,
comme ça
aussi.
Faciles, quoi, parce que ça, ouais. ça rend la cuisine accessible.
C'est vrai que
j'aurais
c'est...
moins mangé de ravioli buitonné.
Ça, c'est vrai que c'est votre casserole. On la connaît, votre casserole. Alors, à défaut d'aller au restaurant, justement, Olivier Pouls nous a rédigé sa propre carte des vins avec une belle sélection d'accords, de produits de saison. Ce sera juste après ça avec Patrick Fiori. Il est bien le Riesling.
Il est bien le Riesling. Ouais. Il fracasse.
Ah, c'est bon.
Terrible.
Ah,
ah, c'est bon.
Oh, mais il est bien.
Non, bon, c'est le prénom.
Oui,
c'est...
bon appétit hein, si vous êtes en train de manger en nous écoutant.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Pas de fermeture pour la table des bons vivants. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi avec notre invité Patrick Fiori. On vous sait corse dans l'âme, Patrick. Depuis quand vous vivez en Corse?
Depuis l'âge de 17 ans à peu près.
C'est ça.
Voilà. Donc ma mère est née là-bas. Elle est née dans la vieille ville, rue de l'Assomption, du côté de la rue Fèche, dans le centre d'Ajaccio. Et puis ensuite, on est allé vivre à Marseille, voilà, pour des raisons familiales. Et puis ensuite, on est retourné en Corse. Donc voilà, la Corse, c'est un endroit très particulier, quoi. Donc, un endroit que j'adore.
Votre maman, Marie-Antoinette, qui cuisine très bien.
Elle cuisine très très bien, elle cuisine très très bien corse, elle cuisine très très bien la cuisine française bien sûr, et puis la cuisine arménienne aussi.
Voilà. Oui,
c'est une grande spécialiste, parce que mon papa est d'origine arménienne, et donc évidemment, par amour, elle a décidé de cuisiner tous les plats pour lui et d'apprendre avec ma grand-mère, donc côté paternel, d'apprendre avec ma grand-mère tout ce que cet homme allait avoir envie de manger.
La vraie transmission.
Ben oui, la vraie transmission.
Eh bien, elle est avec nous au téléphone, votre maman, Marie-Antoinette. Bonjour Marie-Antoinette.
Bonjour.
Bonjour. Merci bonjour, d'être là, ça fait plaisir de vous entendre.
Oui, mais moi aussi. Hein.
Vous savez que vous avez une belle réputation de cuisinière, hein.
Je sais que j'ai une belle réputation, oui. C'est mon fils qui l'a fait. Hein.
Ouais, ouais, mais c'est bien. Il en parle bien. Il en parle bien. Alors, on parle souvent de vos feuilles de vigne farcies. On connaît les feuilles de vigne farcies à la grecque, mais celles que vous faites, elles sont complètement différentes. Racontez-nous.
Ah non, ceux-là, ils sont pas grecs. Hein. Ça, c'est la cuisine carrément arménienne, hein. Parce que les Grecs mettent du riz dedans.
Oui.
Et nous, on met du boulgour. C'est du blé cassé.
D'accord. Et maman, tu mets combien de farces, en fait? Tu mets combien de viande?
Alors,
pour les faire?
Alors, justement, j'ai les copiennes. Pour 8 personnes, dans un grand récipient,
okay, hein,
vous mettez 2 kilos d'oignons,
ah oui,
hachés. 3 gousses d'ail, hachées aussi.
Très bien.
Persil.
Oui.
Coriandre.
Yes.
Cumin.
OK.
Curry.
OK.
Pigne de pain.
Ah oui.
Ah oui, les pignons, bien sûr.
Oui, les pignons de pain.
Eh, d'accord. Mais oui.
Voilà. Après, alors, à part, tout ça, c'est pour mettre tout dans le récipient.
D'accord, hein, le fameux grand récipient.
Deux gousses d'ail à part, que vous mettez dans la marmite.
C'est très bon pour
comme
la santé,
ça,
là.
Cru. Absolument. Cru comme ça, cru. Hein.
Antioxydant.
Avec 5 tomates.
Oui.
5 okay, tomates fraîches. Voilà. Et 2 poules au pot.
Oh! Deux poules au pot
pour 8.
Mais vous deux les... poules au pot.
Mais vous les sortez d'où, vos poules au pot?
Ah ben, les poules au pot, on les achète. Hein.
Ah oui,
les poules au pot, en fait, peut-être des potes au feu, je dois peut-être
les poules au pot, c'est les bouillons, vous voulez dire.
Oui, c'est les bouillons.
Les bouillons,
ah,
voilà.
Ah, je crois que c'est deux grosses volailles en chair, plutôt pot, moi.
Non, voilà,
d'accord, j'ai compris.
D'accord, maman. Ensuite, vas-y, maman.
Alors, ensuite.
Accrochez-vous.
Ça, c'est pour 8 personnes. Hein.
Oui, on a bien compris.
Dans votre grand récipient, vous mettez une petite cuillère et demie de piment.
Oui, et la viande, elle arrive quand? Parce que vous nous promettez
alors,
la viande.
Alors, la viande, c'est 1 kg d'agneau haché, oui, et 1 kg de bœuf.
Ah, oh, voilà, d'accord.
Ah, oui,
voilà,
de bœuf.
Tout ça dans le même récipient.
Toujours.
Hein. Voilà, toujours. Hein. Alors, la feuille de vigne, je la prends entière. Elle vient de Marseille, ou il y en a à Paris aussi. Hein,
bien sûr.
Dans les marchés arméniens. Alors, au milieu, je mets tout ce que j'ai préparé. Voilà, je roule ma feuille avec la queue, je la serre, et ma viande, elle est au milieu. Elle cuit avec le boulgour, c'est-à-dire avec le blé cassé. Il y a du blé cassé dedans aussi.
Absolument,
hein,
oui, absolument. Non, mais ce que voilà, je voulais savoir, c'est quand vous avez mis votre farce dans les feuilles de vigne, est-ce que vous refaites cuire ça quelque part au four ou dans un bouillon ensuite? Comment vous faites?
Alors, moi, j'ai une grosse marmite exprès, plate, avec son machin. Je les serre les uns contre les autres.
Ah oui, c'est très serré, c'est une cuisson très serrée.
Bien serré. Une fois que ma marmite elle est bien en place et tout avec mes feuilles de vigne, alors je jette ma sauce dessus. Je mets aussi des oignons pelés dedans, comme ça, hein, en vrac. Hein,
en vrac, très
en
bien.
Vrac. Eh ben, voilà.
Il y a un bouillon par-dessus, c'est ça. Et vous faites cuire
voilà,
tout ça.
Et le bouillon.
Pour cuire combien de temps ensuite? Une heure et demie,
deux
je suppose.
Heures, ouais.
Ah oui, une heure et demie, oui, c'est pour ça. Compter. Hein.
2 heures de cuisson.
Eh ben, merci oui, Marie-Antoinette.
Un petit feu, hein, attention.
Un petit feu. Oui, on va le dire aux gens, maman. On va le dire aux gens, petit feu, t'inquiète
merci
pas.
Merci Marie-Antoinette et on vous embrasse.
Allez,
merci
voilà,
beaucoup
je t'aime,
pour cette recette. On vous embrasse et on vous aime. Et effectivement, ça n'a rien à voir.
Merci maman.
Ça n'a rien à voir avec les feuilles de vigne à la grecque avec le riz. Là, il y a une belle farce avec, on l'a compris, du bœuf et de l'agneau à l'intérieur.
Mais je crois qu'il vaut mieux que je vous en amène pour mieux comprendre.
Oui, mais vous reviendrez.
Ah oui, c'est technique, c'est super
c'est technique. Mais c'est surtout que là, en fait, ce qu'elle est en train de dire, c'est là, dans sa 8 personnes, il faut compter à peu près 350 feuilles de vigne. Là,
oui,
là, là elle vient d'enrouler 350. Donc en fait, on est 8, mais comme on est des très gros mangeurs à la maison, on massacre tout.
Mais bien sûr.
C'est-à-dire que c'est tellement bon, mais je vous promets, c'est tellement
mais ça
c'est
envie.
Excellent.
Mais c'est la cuisine familiale, c'est la cuisine
possible,
qui fait qu'on se retrouve tous ensemble et qu'on parle en chantant, comme
bien
vous disiez
sûr,
tout à l'heure.
Moi, je me réveille la nuit pour les feuilles de vigne. Hein. Je me réveille la nuit, j'ai le goût, je l'appelle le matin, je dis maman, fais-moi des feuilles de vigne.
On a parlé tout à l'heure des vins corses. On va parler un petit peu des vins des autres appellations avec vous, Olivier Pouls. Rapidement, quelques petits accords qu'on pourrait faire comme ça pour se faire plaisir ce week-end avec des produits de saison. Si je vous dis potimarron, vous me dites quoi alors comme vin ?
Potimarron, mais pas en soupe, puisqu'on va rappeler que l'accord liquide-liquide, c'est pas terrible. Donc un gratin de potimarron. Moi, j'aime bien l'idée d'un pinot gris alsacien. C'est le potimarron à ce côté un peu noisté, un pinot gris alsacien avec très peu de sucre résiduel. Ça marche très bien.
Alors, on est dans la période aussi des poires. C'est la saison de la commisse, de la conférence, de la Louise Bonne. Qu'est-ce qu'on boit avec, je ne sais pas moi, un crumble de poire, avec une tarte aux poires Bourdaloue ?
Découvrons, redécouvrons le poiré, qui est le pendant, qui est à la poire, ce que le cidre est à la pomme. Il y a de délicieux poirés. Je pense évidemment à Éric Bordelais, entre autres.
Bien
mais
sûr.
Il y en a d'autres. Mais un poiré avec un crumble de poire, là, je me relève la nuit, comme Patrick.
Il y a un plat intemporel qu'on aime aussi retrouver en ce moment pour avoir des forces et du faire, c'est le steak tartare. Je sais que vous êtes un fan du steak tartare, Olivier, et vous aussi, Patrick. Qu'est-ce qu'on boit avec un bon tartare en
alors,
ce moment ?
D'abord, je précise tartare au couteau, évidemment.
Bien sûr.
Dans les règles de l'art.
Pas mixé.
Le croquant d'une Syrah du nord de la Vallée du Rhône, magnifique, avec ce côté un peu épicé, un petit peu poivré. Alors, ça dépend comment vous allez agrémenter votre tartare. Mais
s'il est très assaisonné, c'est compliqué parfois. Hein.
Voilà, pas trop. On y va mollo sur le piment et sur l'assaisonnement.
Et on vous mettra les références sur europe1.fr. Et c'est sur le site d'europe1.fr qu'on retrouvera la recette qui va devenir culte des feuilles de vigne de Marie-Antoinette, Patrick Fiori. Ne bougez pas, on revient dans un instant parce que vous allez passer sur le grill, Patrick. A tout de suite et
d'accord.
Bon samedi midi, hein, les amis.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Généreux, partageur, hein, il donne de la voix dans son dernier album Air de famille. Patrick Fiori est notre invité. Vous avez remporté The Voice Kids 2020, Patrick, avec la petite Rebecca.
Trois fois, oui. C'est trois victoires.
Et vous portez bonheur, hein, dites donc. Hein.
Je crois que je suis le seul à avoir les trois victoires, mais en fait, c'est surtout pour eux, c'est surtout pour les enfants. Moi, j'adore accompagner les enfants. J'aurais tellement aimé qu'on m'accompagne comme ça, petit, je parle dans ce métier-là. Mais oui, la petite Rebecca qui a merveilleusement bien chanté. Ouais.
Une belle reprise, tiens, de Véronique Sanson, on a un petit extrait, tiens.
Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu m'aimes au fond de moi, me donne de tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts.
C'est des circonstances, c'est bien.
Absolument, c'est des circonstances. Et puis c'est un joli clin d'œil pour vous, Patrick Fiori, qui avait démarré par des concours de chant, en fait. Hein.
J'ai démarré par là, ouais. Avec Léon Zitron, à l'époque, une émission qui s'appelait Les Habits du Dimanche.
Je me rappelle.
C'est Patrick Fiori. Il y avait un côté Patrick Bruel,
absolument,
je trouve, dans Léon Zitron.
Monsieur, bonsoir.
Avec tout le respect que j'ai pour Patrick. Mais voilà, ouais, j'ai commencé par les télécrochets, radiocrochets, bref, là où on pouvait m'entendre, quoi. Puis à un moment, je chantais peut-être un petit peu plus fort que les autres. Voilà.
La transmission en chanson, comme en cuisine, on l'a entendu tout à l'heure avec votre maman Marie-Antoinette et sa belle recette.
Elle chante toujours quand elle cuisine, tout le temps.
C'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants,
aïe,
Patrick.
Aïe, 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 aïe.
Alors, quel est le goût de votre enfance, cher Patrick ?
Alors, le goût de mon enfance, bon, déjà, je peux vous en parler, c'était les feuilles de vigne et c'était aussi beaucoup les pâtes aux langoustes. Je suis désolé, vous êtes énervé ?
Ah oui.
ça fait envie, ça. On a envie.
Ben oui, parce que, en fait, c'était pas un plat de riche, quoi, les pâtes aux langoustes à l'époque. C'était. Dans la famille, on est tous, enfin, beaucoup pêcheurs. Donc, langoustiers ou pêcheurs tout court. Et puis. Et les langoustes, c'était pour nous, quoi. C'était pour la famille. Donc, c'était pas le truc qui coûtait la peau des fesses. Aujourd'hui, voilà, ça s'est inversé. Et donc, les langoustes, je les ai mangées à toutes les sauces, on va dire. Mais les pâtes aux langoustes, sincèrement, les pâtes aux langoustes de ma tante Laurence ou de ma mère, ou celle de Jean, qui se trouve, c'est un restaurant qui se trouve à Ajaccio, plein centre-ville d'Ajaccio, c'est fabuleux. Et ce goût-là, je l'ai depuis mon enfance, en fait.
Chez Jean-Jean, on retient.
Chez Jean-Jean, oui.
Le premier plat que vous avez cuisiné, Patrick, vous vous en souvenez ?
Ah oui, on parlait des bolignots tout à l'heure, mais moi, j'en étais pas là. Non, c'était mes premières pâtes au Roquefort, voilà, parce qu'on n'avait pas beaucoup de caillasses et qu'il fallait faire au mieux. C'était avec Bernard Di Domenico, je me souviens, c'était Saint-Honoré, où il y en avait un qui dormait au pied et l'autre à la tête.
Hein. Une tête bêche.
Voilà, on n'avait pas de sous, donc. Et donc, c'était les pâtes au Roquefort avec une sauce, évidemment, en fait. De folie, quoi.
Votre plus beau repas dans le sens inoubliable ?
Je pense que le plus beau repas, c'est toujours avec les gens qu'on aime et avec les gens à qui on ne dit pas tout ce qu'on doit dire, quoi. Et je me souviens d'un repas magnifique. C'est souvent des repas de Noël où, évidemment, tout le monde met la main à la pâte et où les garçons aussi cuisinent, puisque depuis, ça s'est démocratisé, donc ça va mieux. Mais je dirais que c'est un repas de Noël. Je devais avoir à peu près 13 ans, 13-14 ans. C'était du côté de la cité Herbel où 70 nationalités se fréquentaient. Où je pouvais descendre à chaque étage pour déguster toutes les saveurs du monde, parce que les gens nous permettaient de taper dans leur cuisine et dans leur plat. C'était celui-là. C'était celui où les 17 étages avaient monté leur spécialité et les avaient installés là sur la table pour qu'on puisse les déguster. Donc 17 religions, 17 nationalités. Voilà, c'était...
Comme quoi on est capable de vivre ensemble. Voilà. Donc,
on était capable largement.
Remettons-nous-y. Et votre pire repas dans le...
C'était chez un ami. C'était chez un ami, il a voulu faire bien. Et j'ai cru que... Enfin, j'ai vraiment attendu le dernier moment pour aller et pour essayer de sortir tout ce que j'avais mangé de mon corps un petit peu plus loin sur son terrain. Oui, oui, non, mais c'était un carnage. Mais il était tellement ravi de tout. Mais tout n'était pas bon. Le vin n'était pas bon. La maillot n'était pas bonne. Rien n'était bon. Rien n'était bon. Fabrice, si tu m'entends, tu te souviens de ce moment.
Mais on n'ira pas chez Fabrice. Votre bande originale pour cuisiner.
Moi, j'écoute beaucoup de classiques, en fait, pour cuisiner. Voilà.
Quel plat vous emmèneriez sur une île déserte, Patrick Fiori?
Pigeon aux olives. Bon pigeon aux olives. Là.
Pas mal, ça. Ouais. Ah, c'est bien, ça.
Comme ça, ça fait voyager.
Qui sont les invités de votre dîner idéal?
Écoutez, en tout cas, si on pouvait manger ensemble ce soir, ça serait vous.
Ah bah avec plaisir, voilà. Écoutez, c'est
on
vrai qu'on aimerait,
on aimerait,
mais voilà, il faut attendre, effectivement, on n'a pas le droit de se retrouver en dehors du cercle familial. Hein. Et votre adresse secrète, Patrick Fiori?
Alors, c'est la taverne Bacu et ça se trouve à Limoux, voilà, c'est un ami qui a ça, la taverne Bacu, la Monnaise, et c'est 11 300 à Limoux. Je vous invite à aller là-bas, vous allez trouver un garçon extraordinaire, une famille magnifique et qui a le goût de l'envie de faire plaisir aux gens et de les voir partir avec un grand sourire de sa table, quoi. Voilà.
Et le mot de la fin, F-A-I-M, Patrick Fiori.
On bouffe quoi là?
Mais qu'est-ce qu'on mange? Je vous ai fait un cake aux noix, moi, tiens.
Ben voilà, ben ça
il arrive,
bien.
On vous apporte un cake aux noix, tiens, justement, parce que cette saison avec un joli miel.
Enfin, moi, me ferais bien une planche de charcuterie corse.
Ben oui,
même,
mais là, oui. Je vous promets que la prochaine fois, en tout cas, le mot de la fin, la table, on le sait, fait des merveilles. Y a ceux qui nous nourrissent, ceux qui nous font des plats merveilleux, mais aussi toutes ces discussions qu'on peut avoir et ces moments magiques. Voilà, donc on sait que c'est compliqué en ce moment. N'oubliez pas, dès qu'on pourra réinviter les gens, d'agrandir les tables, d'agrandir les cuisines
et de mettre des rallonges. Vous
et
avez
de se
raison.
Régaler. Ouais.
Merci Patrick Fiori pour
Merci
votre belle
vous.
Générosité et puis pour ce bel album, Un air de famille qui est sorti, que vous trouvez sur toutes les plateformes de téléchargement, bien entendu. Et puis je signale d'ailleurs que le 14 novembre, vous allez faire un concert depuis le Théâtre Apollo à Paris qui sera retransmis en direct chez tout le monde.
Exact, en live stream, donc c'est-à-dire que le monde entier peut venir se connecter. Il y a évidemment une adresse où.
Billetsreduc.com.
Exact. Ou alors directement au Théâtre Apollo. Et puis voilà, je vais chanter pour les gens parce que j'en ai marre de ne pas les voir. Avec les musiciens, on en a assez. Donc voilà, on ne peut pas partir en tournée, mais on peut être sur le canapé des gens. Ils peuvent être debout. On va chanter pour eux pendant une heure et demie.
Eh bien, on sera là le 14 novembre à 21h. Et pour les billets, c'est billetsreduc.com sur Internet pour faire vos réservations. Merci Patrick Fiori.
Merci à vous.
Et bravo pour ce bel album, Un air de famille. Merci Ophélie Neyman.
Merci.
Bravo
merci.
Pour la première. Merci Olivier Pouls.
Mais merci à vous tous.
On embrasse Yves Candebord qu'on retrouve la semaine prochaine. Merci Lucie Lescourou à la rédaction en chef d'avoir été à nos côtés. Julien Matt, Agnès Vaudin, Jean-Luc Arblad à la réalisation. Il y a du monde, hein, effectivement. Merci à tous de m'aider à préparer cette émission. Vous retrouvez justement l'émission sur Europe1.fr avec les podcasts et les recettes. Faites le marché, hein, c'est pas interdit. Faites le marché, la cuisine et le reste. On se retrouve la semaine prochaine avec Thierry Godard. Vous savez, c'est le Gilou de la série Engrenage, qui est un bon vivant également. Et dans un instant, c'est Europe Midi avec Fabienne Lemoyle. Bon week-end sur Europe 1. Merci Patrick.
Merci. Tu peux avoir du cake encore?
Il y en a, tiens.